Europe 1, 13h, 14h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Bonjour. Avouons-le, les Belges nous intriguent et nous fascinent. Secrètement, on envie leur penchant naturel pour le surréalisme, leur goût de l'absurde, leur fantaisie, leur liberté, leur folie. Et quand le talent s'en mêle, les Belges deviennent irrésistibles. Amélie Nothomb est donc prodigieusement belge. Elle qui, une fois de plus, ouvre le bal de la rentrée littéraire. Son nouveau et 30e roman a pour titre « Premier sang » et bien sûr, il paraît chez Albin Michel. Madame la Baronne est fidèle. Bonjour Amélie Nothomb.
Bonjour Isabelle.
Bienvenue dans cette émission. Alors, chère Amélie Nothomb, depuis 30 ans, de livre en livre, vous mettez du délire, de l'excès, de la ferveur, de la joie au sens mystique, de l'excentricité dans vos récits. La vie ne se suffit pas à elle-même.
C'est une très grande phrase de Pessoa. La littérature est la preuve que la vie ne suffit pas. C'est-à-dire que, comment vous dire, j'ai l'impression d'avoir une vitalité plus grande que la moyenne. La vie, c'est très bien, mais je me réveille à 2h, 3h du matin en ayant l'impression que ça a déjà commencé et que ça doit sortir d'une manière plus forte encore. Et pour ça, rien de tel que la littérature.
Voilà, la vie c'est très bien, mais c'est pas suffisant.
Ça ne suffit pas.
Bon, dans cette société de plus en plus normative, c'est une forme de résistance d'être fidèle à des personnages décalés, souvent excentriques.
Oh, c'est une forme de résistance de ne tenir compte d'aucun des diktats d'aujourd'hui et de rester dans la joie, j'ai l'impression aussi. On se lève le matin, on se dit « ça va être chouette aujourd'hui », on décide que ça va être chouette aujourd'hui. Oui, c'est une forme de résistance.
Alors, vous délirez la vie, comme l'écrit le journal Le Monde, mais rien, en fait, dans votre vie n'est commun, Amélie Nothomb. Ainsi, votre père, qui est le héros de ce nouveau livre, est un personnage singulier, qui a commencé sa carrière de diplomate en héros au Congo, en sauvant la vie de 1800 otages, puis a été le premier diplomate belge en Chine populaire, sous Mao, ambassadeur au Bangladesh, en Birmanie, en Thaïlande, au Laos, ambassadeur au Japon de 88 à 97, le Japon où vous êtes né. Sauf que cet homme était le plus discret et le plus pudique qui soit et ne se confiait jamais. Pas simple pour écrire un livre sur lui.
Ah, je vous assure, mon père, c'est un paradoxe vivant. C'est aussi pour ça que ça fait un tel personnage de roman. Petite, je me souviens, il me mettait terriblement mal à l'aise parce que je ne le comprenais pas. Je me rendais compte que c'était un personnage extraordinaire. Je le voyais dans son métier. Il recevait 1000 personnes par mois à la maison. Et je n'étais pas invitée au cocktail, mais j'y passais continuellement pour voir ce qui se passait. Et je voyais mon père être un prince et recevoir et parler avec grâce et fougue et prestance. Et les gens le regardaient en béance et en l'adorant. Et puis, dès que nous étions dans notre petit cercle, notre premier cercle de famille, papa, maman, mon frère, ma sœur et moi...
Il se refermait sur lui-même.
Il se refermait, on ne l'entendait plus. Je me disais, mais qui est ce drôle de type? Pourquoi est-il différent avec nous? Qui est le vrai papa? En plus, il avait des particularités quand même très très spéciales. Chantait le no.
Ah ben oui, on va l'évoquer tout à l'heure. Mais bien sûr, c'était en fait le premier occidental, je crois, à être accepté dans une troupe de théâtre no, c'est-à-dire le théâtre ancestral japonais.
C'est ça, l'opéra médiéval japonais, ce qui implique que j'ai passé un grand nombre de dimanches après-midi de mon enfance au temple, à écouter mon père faire des mélopées pendant 4 heures, à genoux, et j'étais à genoux aussi, et mon frère, ma sœur et moi aussi, on se dit, mais qu'est-ce qu'on s'emmerde.
Oui, parce que vous dites que la musique en fait, du théâtre no est à la fois la plus ennuyeuse et la plus sublime qui soit.
C'est terriblement beau, mais c'est un petit peu comme des chants grégoriens, et quand vous avez 4 ans, franchement, vous avez autre chose à faire que d'écouter des mélopées médiévales japonaises pendant 4 heures.
Mais c'est votre père qui vous emmenait ?
Il nous emmenait parce qu'il se disait que c'était très intéressant, qu'il fallait nous initier à cette forme d'art. Mon père avait une très grande estime pour tout le monde, mais il manifestait cette estime par des exigences inouïes.
Oui, oui.
Et si vous aviez 4 ans, ça n'avait aucune importance. Vous alliez bien sûr apprécier le spectacle no. Je me souviens que la toute première fois que j'ai entendu du no, j'étais terrifiée. Je me suis dit, est-ce que je dois pleurer? Qu'est-ce que je dois faire? Pourquoi est-ce que papa fait des bruits bizarres comme ça?
Amélie Nothomb, vous avez prononcé à l'instant une phrase plutôt intrigante. Mon père avait de l'estime pour tout le monde, mais avait-il des sentiments, ce père verrouillé?
Il en avait certainement. C'était un tendre, mais en même temps un homme terriblement pudique. Il ne m'a dit « je t'aime » qu'une seule fois parce que je le lui avais dit d'abord. C'était une semaine avant sa mort, à croire que j'avais senti que c'était le moment. Il nous montrait sa tendresse par bien des signes. Il nous regardait avec des yeux très gentils et pleins d'affection. Mais il était... lui-même n'avait pas eu de père puisque son père était mort quand il avait 8 mois. Et sa mère, du coup, brisée par le chagrin, ne lui avait pour ainsi dire jamais accordé d'affection. Pour cette raison, mon père ne savait pas comment être un père et ne savait pas comment montrer son affection à des petits-enfants. Il a fallu vraiment que nous soyons adultes, je parle de mon frère, ma sœur et moi, pour qu'on ait des signes tangibles de son amour pour nous. Je pense que c'était un excellent père, mais un père pas du tout à la mode actuelle.
Alors, ce nouveau roman, Premier sang, est donc une biographie faussement autobiographique. Vous livrez une partie de la vie de votre père en écrivant « je », comme s'il se racontait, c'est-à-dire que vous vous substituez à lui. Vous avez soumis le manuscrit à votre maman, à votre sœur, à votre frère, avant de le donner à l'éditeur ?
Non, pas avant, mais après, quand il était publié.
Ah, carrément ?
Oui, oui, écoutez, je me doutais bien qu'il n'y aurait rien dans ce manuscrit qui puisse les choquer. C'était un manuscrit d'amour envers mon père, infiniment respectueux envers ma mère. Donc... Et en plus, je voulais leur faire la surprise. La plus belle réaction, ça a été ma mère. Quand j'ai apporté le roman fini cet été à ma mère, sans lui dire le moins du monde quel était le sujet de ce livre, ma mère, qui maintenant est une toute vieille dame, parce que la mort de son mari lui a malheureusement fait un coup, elle a commencé à lire le livre. Je la regardais lire. Et après 2 pages, tout à coup, elle s'est écriée « Mais c'est Patrick !» Là, elle m'a regardée et je me suis dit « Oh, c'est trop beau, je lui ai rendu son mari
voilà. !»
C'était bouleversant.
En fait, le challenge n'était pas d'écrire un livre sur votre père, mais de devenir votre père le temps d'un livre.
Voilà, je voulais lui rendre la vie. Et quelle autre façon de lui rendre la vie que de le ressusciter, que de lui donner la mienne ? C'est-à-dire que l'espace d'un roman, mon jeu devient le sien. Vraiment, c'est une expérience de l'ordre du chamanisme. Papa, exprime-toi à travers moi. Deviens moi, je deviens toi. Je dois dire que je m'y sentais une certaine légitimité du fait que quand j'étais petite, j'étais la seule des 3 enfants qui ressemblait à son père. Tout le monde disait que je lui ressemblais de façon hallucinante, au point que ma mère me présentait aux invités en disant « Et celle-là, c'est Patrick !» Même que ça m'indignait, j'avais envie de dire « mais non, je ne suis pas Patrick, mais non, je suis moi, regardez-moi, ça se voit que je suis moi quand même !» Du coup, j'étais tellement indignée que je me présentais moi-même aux invités en disant « Bonjour, je suis Patrick !» Et les invités étaient extrêmement intrigués.
Amélie Nothomb, alors ce roman Premier sang est habité de personnages qui tous méritent d'être les héros d'un livre. Votre grand-mère, donc jeune veuve, qui n'aimait pas son enfant, donc votre père. Votre arrière-grand-père, le patriarche de cette histoire vraie, baron des Argentés qui régnait en son château ardennais sur une tribu d'enfants faméliques qui aurait pu envier carrément le sort des enfants de Vipère au Poing, le roman d'Hervé Bazin. Cet arbre généalogique, c'est du pain béni pour un auteur.
Ma foi, oui. Et pourtant, vous pouvez me croire, il a vraiment fallu que papa meure pour que je me rende compte qu'il était un personnage de roman absolument incroyable. Je n'aurais jamais imaginé écrire sur mon père. Et c'est d'avoir voulu ressusciter mon père que je me suis rendu compte que son enfance... Mais c'était Oliver Twist, c'était du Dickens.
Voilà. Bon, quand je dis que vraiment tous les personnages de votre arbre généalogique sont dignes de figurer dans un roman, j'en veux pour preuve votre grand-père, qui était militaire et qui a disparu l'année de ses 25 ans, dans des conditions quand même totalement surréalistes. Au cours de son premier exercice de déminage, l'armée a placé une vraie mine à la place de la fausse mine.
Voilà, une erreur absolument ridicule. Et puis mon grand-père arrive pour faire son premier essai de déminage et presque aussitôt, il explose. C'est donc même pas à la guerre, quoi. On ne peut pas imaginer mort plus ridicule pour un militaire. Et ma pauvre grand-mère ne s'en est jamais remise. Vous dites qu'elle n'aimait pas mon père. Je crois qu'elle l'aimait, mais qu'elle n'était pas du tout capable de le lui montrer. C'était une femme éperdument amoureuse de son mari. Et la mort de son mari, alors qu'il venait de se marier, de faire un enfant, ça l'a tout simplement détruite.
Alors au milieu de tous ces drames et du manque d'amour, quand même, votre père est devenu un adulte doué de 1000 ressources. Il a opté pour une carrière diplomatique et il l'a inaugurée en grande pompe au cours de la plus grande prise d'otage qui ait jamais eu lieu en Afrique. C'était au Congo en 64. Et votre livre démarre avec la scène du peloton d'exécution constitué de 12 rebelles qui devait le fusiller.
Oui, ça s'est vraiment passé. Il paraît que ça s'est même passé 2 fois. Mon père a consacré un livre à 2000 pages à son expérience d'otage que j'ai lu deux fois. Et ce livre est absolument sidérant parce que papa y met absolument tous les détails de la politique africaine. C'est, si vous faites une thèse en politique africaine, vous devez absolument lire ce livre. Mais par contre, il n'y met aucun sentiment. Par exemple, la scène du peloton d'exécution, il la raconte...
Qui est la chose la plus redoutable que puisse vivre un être humain.
Et il paraît que quand on vit ça, Dostoïevski en témoigne, on éprouve des vertiges, on entre dans une espèce de trip hallucinant. Mmh. Mon père vous raconte ça de façon purement factuelle. Et puis, il en réchappe, et voilà, et c'est fini, il passe à autre chose. J'ai lu deux fois la scène, je lui ai dit, mais papa, il n'y a pas quelque chose qui manque, là Et les sentiments? Il avait une espèce de pudeur quand il était question des sentiments, qui était juste hallucinante. Il était le même pour ça dans la vie que dans l'écriture. Ne jamais préciser les sentiments. Donc, moi, j'ai décidé de consacrer l'entrée de mon roman consacré à mon père, justement par cette scène, mais en précisant tout ce qu'il n'avait pas mis et qu'il avait forcément éprouvé, parce que c'était un homme extrêmement émotif. Donc, je mets rien que les sentiments qu'il a pu éprouver à ce moment-là.
Alors, votre père, donc, au Congo, a sauvé 1800 personnes pendant cette prise d'otage à Stanleyville, en devenant pendant 4 mois ininterrompu un virtuose des palabres. Pardonnez-moi cette comparaison, mais ça me fait presque penser aux mille et une nuits, c'est-à-dire que dans les mille et une nuits, bah voilà, si la princesse Scheherazade s'arrête de raconter des histoires absolument extraordinaires, elle sait qu'elle sera tuée au petit matin par le roi de Perse. Donc là, il fallait ne jamais interrompre les palabres. Ça a duré 4 mois.
Pendant quatre mois, mon père, qui était un homme taciturne, s'est mis à parler pendant 4 mois, non seulement pour sauver sa vie, mais pour sauver la vie des 1500 otages. Et ça, si ce n'est pas de l'héroïsme pur et dur, tout ça presque sans dormir, en mangeant extrêmement peu, et je le rappelle, dans la peur. En plus, nous savons après coup que ça durerait 4 mois, mais lui n'en savait rien. Il pouvait croire que ça durerait jusqu'à la fin des temps, qu'il devrait parler jusqu'à la fin des temps, et il était résolu à parler aussi longtemps qu'il le faudrait pour sauver les otages. Ça, pour moi, c'est un véritable héros. Mon père, qui n'était pas du tout taillé pour l'héroïsme, qui était un homme délicat, féminin, qui s'évanouissait à la vue du sang, est devenu un héros extraordinaire, rien que par son don pour la parole.
On retrouve immédiatement Amélie Nothomb.
Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Je reçois une légende bien vivante de la littérature française, Amélie Nothomb, qui publie chez Albin Michel. Premier sang. Alors, chère Amélie Nothomb, vous êtes née à Kobe, au Japon, bien sûr. Votre père était en poste comme consul général. Moi, le Japon, ça m'apparaît vraiment comme un pays complètement ambivalent. C'est-à-dire que le Japon, c'est à la fois le pays du zen et du harakiri. Comment les deux peuvent-ils cohabiter dans une même culture ?
Le zen et le harakiri proviennent de deux cultures différentes. Le zen, c'est finalement ce que le Japon a fait du bouddhisme. Et le harakiri, c'est donc le seppuku, ça c'est vrai du vrai shintoïsme. Le shintoïsme est la seule religion qui soit spécifiquement japonaise. C'est ça qui est extraordinaire au Japon, c'est que tout japonais pratique plusieurs religions en fonction des âges de sa vie.
Oui, mais vous avez un regard qui est religieux là-dessus. Moi, en fait, avec mon côté très occidental, il est plus pragmatique. C'est-à-dire que d'un côté, je vois la quête de l'ultime plénitude chez ce peuple japonais, et de l'autre, une violence hallucinante, parce que harakiri, c'est se donner la mort en se découpant en deux parties avec un sabre.
Mais vous avez tout à fait raison, c'est extrêmement choquant, C'est terrible, mais ça devient possible dans un pays où la mort est extrêmement valorisée. Qu'est-ce que le zen ? C'est l'apprentissage de la mort. On dit que tout japonais meurt dans le zen. Le but, c'est d'atteindre le zen pour la mort. Parce que le zen, qu'est-ce que c'est ? C'est l'extraordinaire acceptation de l'instant. Il faudrait tous, pas seulement les japonais, il faudrait que tous que nous soyons capables de mourir en état zen. C'est-à-dire en ayant enfin rejoint l'instant, l'immédiateté, et en acceptant de rejoindre...
Il y a du détachement là-dedans.
Il y a du détachement, mais vous savez, je pense que je suis un être plus vivant que la moyenne des gens, mais je me sens aussi beaucoup plus prête à mourir que la moyenne des gens. Parce que ça, c'est un concept japonais que j'ai vraiment fait mien. L'idée que à l'instant où la mort se présente, il faut tout de suite l'accepter et le vivre comme une espèce d'entrée dans un présent définitif.
Vous avez passé les 5 premières années de votre vie au Japon, Amélie Nothomb, c'est à la fois déterminant et c'est très court, 5 ans. Mais ça a suffi à vous persuader que vous étiez japonaise ?
toute petite, j'étais persuadée d'être japonaise. J'avais fait mon choix, j'avais bien remarqué que mes parents et ma nounou n'étaient pas du même pays, ne parlaient pas la même langue. Et j'adorais mes parents, mais j'adorais ma nounou à l'égal de ma mère. Et j'étais follement heureuse d'être au Japon. Je me rendais compte, j'ai assez vite su qu'il y avait d'autres pays et que malheureusement je partirais un jour et que ce serait un scandale de partir un jour. Mmh. Et quand j'ai su ça, je l'ai pris comme mon premier déchirement. J'étais littéralement au paradis, mais je savais qu'un jour je quitterais le paradis. Donc j'ai aimé encore plus le Japon. C'était vraiment ma terre sacrée, c'était pas n'importe quel Japon, c'était un village des alentours de Kobe dans la montagne. Donc le Japon du grand passé mythologique japonais comme on l'imagine, c'était une maison avec un jardin, c'était la beauté même. Donc il y avait de quoi être amoureuse de ce Japon-là. Et puis à l'âge de 5 ans, comme on me l'avait annoncé à l'âge de 2 ans et demi, nous avons quitté le Japon. Ça a été le premier choc de ma vie. Je crois que c'est ce qui a fait de moi la personne que je suis.
Alors, ce n'est pas seulement l'arrachement à un pays, c'est l'arrachement aussi à l'amour, puisque à ce moment-là, on vous a privé pour toujours d'une personne que vous aimiez, paraît-il, autant que votre mère.
C'est ça, à ma nounou japonaise, Nishio-san, qui était ma mère à l'égal de ma mère. Et la quitter a été vraiment un déchirement. Et je veux croire que ça a été un déchirement pour elle comme pour moi. Quand on m'a arrachée à ses bras pour me mettre dans la voiture, elle était à genoux parce qu'elle me serrait dans ses bras à ma hauteur, donc elle était à genoux. Puis quand je suis partie, elle a mis son front sur la route et elle a gardé son front sur la route aussi longtemps que la voiture s'éloigne. Et je me suis dit, mon Dieu, il se passe vraiment quelque chose d'abominable.
On a tous l'image en tête, là. La nouvelle destination qu'on avait donnée à votre père n'était pas du tout anodine. En 72, en fait, votre père devint donc le premier diplomate belge à obtenir un poste en République populaire de Chine, donc dans la Chine communiste de Mao Tse-tung.
C'est ça.
Vous n'étiez qu'une enfant, mais quelles images vous restent de la Chine de cette époque-là ?
Mais énormément. Tout de suite, j'étais traumatisée par l'incroyable différence qu'il y avait entre le Japon et la Chine. C'était vraiment l'inverse. C'était pas n'importe quelle Chine, c'était la Chine de Mao. C'était un pays misérable, carcéral, où nous n'avions pas le droit d'adresser la parole à la population. C'est-à-dire que si nous, étrangers, adressions la parole à la population chinoise, nous-mêmes, nous n'étions pas inquiétés. Mais le Chinois ou la Chinoise à qui nous adressions la parole disparaissait et ne réapparaissait plus jamais. Donc, c'était absolument effrayant. En plus, il y avait toutes sortes d'autres différences. La Chine, le Japon où je vivais était un pays verdoyant, avec des fleurs et des forêts. Pékin, c'était tout près du désert de Gobi. Il faisait atrocement sec. C'était la sécheresse permanente. En plus, tous les étrangers étaient enfermés dans le ghetto des étrangers. Nous n'avions pas le droit de sortir. Nous étions...
Pas le droit de sortir. Et il paraît que vos parents devaient se cacher pour écouter, avec la mélancolie qu'on imagine, la musique occidentale comme celle des Beatles. Parce que la terrifiante épouse de Mao imposait une censure culturelle sans appel,
mais
c'est
absolument.
Ça ?
Absolument. Il fallait vraiment se cacher. Mon père, je me souviens, à l'époque, il était fanatique de Let It Be. Ouais. Et il se cachait pour écouter Let It Be.
Bon, Amélie Nothomb. Tous les insomniaques ne deviennent pas romanciers, mais l'insomnie a sans doute été pour vous un carburant formidable. Au point que, enfant, il paraît que vous attendiez la nuit avec grande impatience, parce que pendant que les autres dormaient, vous vous racontiez des histoires.
Oui.
C'est ça.
Plus exactement, je me racontais l'histoire.
C'est-à-dire ?
L'histoire était ininterrompue. C'était, j'avais mes personnages. En gros, mon personnage, c'était ma sœur et moi. Et c'était deux enfants, donc, inséparables et qui vivaient des aventures à n'en plus finir.
C'est-à-dire que comme la Chine de l'époque était une sorte de grande prison, oui, votre imaginaire, lui, vous permettait d'écarter les barreaux.
Oui.
Mais alors, vous racontiez la grande histoire toutes les nuits, mais vous n'avez jamais eu la tentation d'écrire avant l'âge de 17 ans. Pourquoi ?
Mais jamais. Mais j'étais tout à fait contente avec mon histoire. Je me la racontais à moi-même. Je n'éprouvais pas le besoin d'avoir un public. Et ça a continué comme ça jusqu'à mes 12 ans et demi. Jusqu'à mes 12 ans et demi, j'étais d'une parfaite plénitude, sans besoin d'autre chose. Et puis à 12 ans et demi, il m'est arrivé comment est-ce qu'on peut appeler ça ? Un accident qui fait que je n'ai plus jamais été la même personne.
Une agression.
Voilà. Et que les voix se sont fracturées dans ma tête et que je n'ai plus été capable de me raconter l'histoire. Il a fallu que j'atteigne l'âge de 17 ans pour comme j'étais vraiment en manque d'histoire, vu que j'avais été quand même pendant 12 ans et demi une raconteuse d'histoire, à 17 ans, je me suis dit, et si tu écrivais ? Là, ce serait peut-être pour toi la manière de reprendre le fil.
Oui, parce que cette agression vous avait rendue anorexique.
Oui.
Et en fait, écrire vous a ramené à la vie.
C'est exactement ça. J'ai pu retrouver l'histoire, j'ai pu redevenir une raconteuse d'histoire, mais d'une autre façon.
Alors Amélie Nothomb, votre père, je continue de dérouler le fil, hein, deviendra par la suite ambassadeur au Bangladesh et en Birmanie, ambassadeur en Thaïlande et au Laos, avant de revenir en poste au Japon de 88 à 97. Vous l'avez suivi jusqu'où ?
Je l'ai suivi jusqu'à l'âge de 17 ans, c'est-à-dire jusqu'à l'équivalent du bac belge. Et là, ma sœur et moi, on est allés ensemble vivre en Belgique pendant que mon père continuait sa carrière à l'étranger avec ma mère pour commencer nos études universitaires.
Mais alors, bon, ces déracinements successifs, cette immersion permanente en Asie, forcément, ça a fait de vous, aux yeux du monde occidental, un être singulier. Alors, intégrer une université en Belgique et se fondre parmi les étudiants qui, eux, avaient toujours, je ne sais pas, vécu à Namur, à Liège ou à Bruxelles, j'imagine que ça n'a pas du tout été une mince affaire.
Ça a été l'enfer sur Terre. On m'avait toujours dit que quand tu arriveras dans ton pays, la Belgique, tu auras enfin des amis, tu seras comme les autres, ça va être formidable, tu ne seras plus l'unique compagne de ta sœur. C'est pas ça, hein, c'est génial d'avoir sa sœur pour meilleure amie. Mais bon, on se rendait bien compte, ma sœur et moi, que ça serait pas mal si on connaissait quelqu'un d'autre que sa sœur, quoi. C'est pas du tout ce qui nous est arrivé. Là, au contraire, quand je suis arrivée en Belgique, je me suis dit, mais heureusement qu'il y a ma sœur, parce que sinon, je serais vraiment seule au monde. Et c'était pas par manque de désir d'intégration. Notre désir d'intégration était immense. Mais bon, je ne vais pas parler pour ma sœur, je vais parler pour moi. J'étais tellement cloche, je possédais tellement pas les codes.
Vous n'aviez pas les codes, c'est tout.
J'avais pas les codes et j'étais tellement pas douée pour les trouver que ça n'a pas marché du tout. J'ai été totalement rejetée. Ma solitude s'est encore accrue. Il m'a fallu 2 ans pour me faire une amie. Bon, vous me direz, après 2 ans, vous avez tout de même eu une amie. C'est vrai. Mais 2 ans, quand on a 17 ans, 2 ans de solitude totale, c'est très long, hein.
Alors, de la même façon qu'il ne faut jamais retourner avec un ancien amoureux, il ne faut jamais tenter de revivre sur les lieux fantasmés de son enfance. Or, Amélie Nothomb, à l'âge de 21 ans, vous êtes retournée au Japon pour tenter d'y vivre et le rêve s'est déchiré, c'est ça ?
Oui et non. C'est-à-dire que ce n'était plus du tout le Japon de mon enfance. Déjà, c'était, pour le coup, ce ne l'était vraiment pas puisque c'était Tokyo. Et ce n'était plus donc le petit village, la montagne, la petite maison.
Bon, vous y êtes allée en interprète, hein, comme ça, vous l'avez
raconté. C'est ce que je raconte dans Stupeur et Tremblement. Mais ça, c'était ma deuxième année de jeune adulte au Japon, qui de fait a été absolument terrible. Mais ma première année, donc celle de mes 21 ans au Japon, c'est l'année où j'ai rencontré mon fiancé japonais. C'est ce que je raconte dans Ni d'Ève ni d'Adam. Ça, honnêtement, c'était chouette. Donc, disons que j'ai été la pire employée de bureau au Japon, mais auparavant, j'ai été une fiancée certes très médiocre, mais qui s'amusait beaucoup.
Mais vous étiez, l'avez-vous avoué, définitivement une japonaise ratée.
Complètement ratée. J'avais trop voulu être une japonaise, j'avais trop d'amour pour le Japon pour ne pas être une japonaise, mais pourtant, j'étais une japonaise ratée parce qu'il y avait des tas de choses japonaises que je ne parvenais pas à faire et que je ne parviens toujours pas à faire.
Comme quoi, par exemple ?
Par exemple, avoir le visage inexpressif. Une vraie japonaise, surtout si elle aspire à la distinction, doit avoir un visage parfaitement inexpressif et immobile, chose dont je suis radicalement incapable. Donc, je me souviens que dès que je parlais, mon visage s'agitait et je voyais surtout les femmes japonaises qui me regardaient avec une désapprobation et une consternation totale.
J'ai 1000 questions à vous poser, chère Amélie Nothomb. Alors, on fait vraiment une interruption très courte et on se retrouve tout de suite.
Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Par décret, le roi Philippe de Belgique l'a faite baronne. Mais cet après-midi, je ne reçois pas la baronne. Je reçois l'écrivaine virtuose Amélie Nothomb qui publie Premier sang chez Albin Michel. Amélie Nothomb, avec un côté presque matamor, vous confiez, bon, soyons clairs, j'aurais pas le Goncourt. Si je ne l'ai pas eu pour le roman Soif, je n'aurai jamais le Goncourt. Il n'y a pas un brin de dépit là-dedans ?
Au moment même, j'en ai éprouvé un petit peu. Maintenant, ça m'a tout à fait passé. Je suis tout à fait résignée. Et puis, vous savez, Il y a des choses beaucoup plus graves dans la vie que de ne pas avoir le Goncourt.
En tout cas, les lecteurs sont nombreux. Hein. Depuis le premier livre, vous en êtes au 30e roman. Toute édition confondue, 20 millions d'exemplaires ont été vendus tout autour de la planète, c'est ça?
Alors, j'oublie toujours le chiffre, mais il est très grand.
J'aime beaucoup votre façon de répondre. Amélie Nothomb, est-ce qu'on peut devenir un grand écrivain sans d'abord avoir été un vrai lecteur?
Je n'y crois pas une seconde. C'est comme si on prétendait devenir un grand cuisinier en n'ayant pas mangé des choses étonnantes au cours de sa vie. Moi, j'ai très vite, je suis devenue une très, très grande lectrice. J'avais été à bonne école. Mon père était un dévoreur de livres. La littérature était la valeur à la maison.
Oui.
Quand on se rencontrait, ce n'était pas pour dire « qu'est-ce que tu as mangé ?» c'est « qu'est-ce que tu as lu ?» Donc, je suis très vite devenue une lectrice et j'ai d'autant plus dévoré du bouquin que, pour simplifier, dans ma vie de 10 à 20 ans, il n'y a eu personne à part ma sœur. Donc, heureusement qu'il y avait les livres parce que les livres me permettaient d'échapper au néant. J'ai pu vraiment me former, ne pas virer au néant grâce aux grands livres.
Les écrivains qui dévorent la prose de leurs confrères ne sont pas si nombreux. Que lisez-vous en ce moment?
Alors là, en ce moment, je lis Selma Lagerlöf, qui n'est pas un écrivain de la rentrée, donc je fais une petite exception.
Oui.
J'ai reçu un tout vieux Selma Lagerlöf qui s'appelle Le Chartier de la mort. C'est comme une légende. J'adore ça. En fait, je lis tout ce qui me tombe sous la main, de préférence des romans, bien sûr. Je lis énormément de la rentrée, et il y en a d'ailleurs d'excellents. Mais voilà, je suis omnivore.
Alors, vous êtes une lectrice compulsive. Il y a un bruit qui a couru. C'est que, en fait, vous pourriez intégrer le jury du Goncourt.
Très sincèrement, je n'en ai aucun souhait. On me l'a proposé.
Ah, on vous l'a proposé.
On me l'a proposé et j'ai refusé parce que je ne me sens absolument pas taillée pour le rôle. Je suis jurée dans un prix littéraire important qui est le prix Décembre.
Oui.
Je dirais que ça me convient mieux. Le prix Décembre est un prix important, mais ce n'est pas le Goncourt. Le Goncourt, c'est un prix colossal. J'imagine que quand on est juré...
Ça change l'aiguillage d'une vie.
C'est ça. Et puis j'imagine qu'on doit subir des pressions absolument inouïes. Et ce n'est pas une chose que j'aimerais. Je suis jurée au prix Décembre, je ne subis aucune pression. C'est quand même nettement plus agréable.
Amélie Nothomb, pour un cinéaste, la vie n'est jamais aussi intense que dans un grand film. Pour une romancière, la vie n'a jamais la grâce d'un grand livre. Vous préférez écrire et lire que vivre?
Je ne préfère pas. J'ai l'impression que je suis d'autant plus vivante que je lis et j'écris. Si ma journée n'a pas commencé par 4 heures d'écriture, je ne me sens pas capable de vivre. Si ma journée n'a pas comporté aussi plusieurs heures de lecture, je sens un gros manque, comme si je ne m'étais pas nourrie, comme si j'étais orpheline. Donc j'ai besoin de tout ça. Je me sens d'autant plus vivante qu'il y a lecture et écriture dans ma vie.
Alors Amélie n'est pas votre prénom, hein. C'est un nom de plume.
Ce n'est pas un prénom de plume. C'est vrai que ce n'est pas le prénom.
Mais votre vrai prénom, c'est Fabienne Claire.
Alors, c'est en effet ce qui figure sur ma carte d'identité, mais on ne m'a strictement jamais appelée comme ça. C'était pour un.
Donc vous n'avez pas choisi le prénom d'Amélie?
Non, c'est le prénom que mes parents voulaient me donner, mais un interdit familial l'a rendu impossible. C'était la jument de l'arrière-grand-père qui s'appelait Amélie, enfin bref. Mais bon, moi, peu m'importe ces considérations équestres. Et en fait, on ne m'a jamais appelée autrement qu'Amélie. Donc ce n'est pas un prénom de plume, c'est mon vrai prénom.
Donc je continue de vous appeler Amélie.
Oui.
Tous les écrivains, si on les croit bien sûr, se réveillent à 4h du matin pour écrire et vous dites en faire partie. Pourtant, toute personne normalement constituée qui tombe du lit à 4h du matin n'est pas naturellement, au mieux de sa verve. Quoi. Il faut un temps d'adaptation et un café bien chaud par exemple pour récupérer ses esprits. Alors comment faites-vous pour accoucher d'une œuvre à peine arrachée à vos draps et l'esprit encore en buée de rêve?
Le secret, ma potion magique, c'est le thé. Le thé beaucoup trop fort. J'ai essayé toutes les substances, légales, illégales. Finalement, il n'y en a qu'une.
Illégale
seule... Oui, j'ai essayé aussi, pourquoi pas. Et franchement, ça tombe bien, la substance la plus efficace et parfaitement légale, c'est le thé. Le thé noir, préparé beaucoup trop fort et bu à raison d'un demi-litre à jeun. Pas siroté, vous le buvez. Vous le buvez d'un coup, comme ça. C'est très désagréable. Hein. Personne n'a envie de boire un demi-litre de thé trop fort à jeun.
Sauf Amélie Nothomb à 4h du matin.
Mais ça fait exploser la tête et ça procure une espèce d'énergie bouillonnante qui m'est absolument indispensable pour écrire.
Parlons un peu du style. À l'opposé de Balzac, par exemple, qui s'empare de 30 pages pour décrire un paysage ou une rue, votre prose, à vous, Amélie Nothomb, elle est extrêmement condensée, puisque vos livres, et c'est un rituel depuis le premier, et vous venez de faire paraître le 30e, bien vos livres s'étirent sur, on va dire, 150, 160 pages. D'ailleurs, le récit commence sur le roman, premier sang, à la page 9. J'ai envie de dire qu'il se lise comme une longue nouvelle, mais faire court à ce point, c'est un concept.
C'est un concept et je vous assure que c'est du boulot. Une de mes grandes occupations pendant mes insomnies, c'est que j'écris dans ma tête les pages du lendemain. Et c'est tout un travail, c'est-à-dire que la voix apparaît, la pulsion verbale apparaît, donc j'entends le son de la phrase est là, et puis je la rabote. Je passe l'insomnie à la raboter jusqu'à ce que j'en ai enlevé tout ce qu'on pouvait en enlever. Et puis je fais la phrase suivante. Ce qui fixe la phrase dans ma mémoire, c'est de l'avoir tellement rabotée. C'est du boulot.
C'est pour ça que vos manuscrits, en fait, ne comportent absolument aucune rature.
Il n'y a pas de rature puisque j'ai déjà tout raboté dans ma tête avant de l'écrire.
Donc, vous ne sortirez jamais, en fait, de ce cadre des 150-160 pages. Il n'existera jamais de roman fleuve d'Amélie Nothomb.
Franchement, ça m'étonnerait très profondément. Alors, je sais qu'il y a des lecteurs qui ne comprennent rien à ça, qui me disent... Oui, qu'est-ce que vous êtes paresseuse avec vos bouquins de 170 pages.
On vous dit ça.
Oh, mais on me dit ça couramment. Et je ne sais pas comment dire aux gens, mais je vous assure, c'est tout ce que vous voulez, mais ce n'est pas de la paresse. C'est vraiment beaucoup de travail de les faire si courts.
Alors, vous êtes 100% papier et encre. 0% numérique, pas d'internet, pas d'ordinateur, pas de portable. Donc, Google, c'est un concept totalement abstrait pour vous. Pourtant, aujourd'hui, Amélie Nothomb, on paie nos impôts par smartphone, avec impôts.gouv, et puis sans Internet, par exemple, vous ne pouvez pas retenir un vol d'avion ou prendre un rendez-vous sur Doctolib. Alors, pas d'ordinateur, pas de portable, bon, j'imagine que c'est une forme de protection, mais ça n'est pas non plus, allez, une forme de snobisme.
Je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est que c'est une liberté et une protection extraordinaire. Je parle souvent à des collègues écrivains qui ont, bien sûr, Internet. Et régulièrement, pour ne prendre qu'un seul exemple, régulièrement, ils tombent, je ne sais pas s'ils l'ont fait exprès ou non, sur un truc dégueulasse sur eux, sur Internet. Et ça les crucifie. Et ça, vraiment, ça les met en danger. Ils se sentent humiliés, détruits. Je peux comprendre. C'est pas pour ça que je n'ai pas Internet. Je n'ai pas Internet parce que ça ne m'intéresse pas. Mais ne serait-ce qu'être protégé de ça, ce genre de danger que je viens de décrire et qui apparemment arrive à absolument tous les écrivains, ne serait-ce que pour ça, mais ce serait une excellente raison de ne pas avoir Internet.
Vous savez qui fait partie de ce club et n'a pas de portable ?
Non.
Quelqu'un que, j'en suis persuadée, vous admirez comme moi, comme nous tous, Alain Souchon.
Mais j'adore Alain Souchon. Oh, vous m'apprenez que je suis dans le même club que lui. Alors ça me fait très plaisir.
N'est-ce pas ?
Mais oui.
On retrouve tout de suite Amélie Nothomb.
Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. 13h, 14h, Isabelle Morizet.
Franchement, c'est festif et luxueux de se balader comme ça, cet après-midi, en compagnie d'Amélie Nothomb, qui fait paraître chez Albin Michel son 30e roman, Premier sang. Alors, Amélie Nothomb. En fait, Premier sang, bon, je dis que c'est votre 30e roman, mais en réalité, je pourrais dire que c'est le 120e, puisque chaque année, vous en écrivez 4 pour n'en publier qu'un. C'est-à-dire que vous ne dérogerez jamais à cette, j'ai presque envie de dire, curieuse hygiène littéraire qui consiste à accoucher de 4 livres et en tuer 3. Chaque année, c'est le même rituel ?
Je n'y dérogerai jamais, mais dites-vous bien que ceux que je ne publie pas, je ne les tue pas. Ne pas les publier ne revient absolument pas à les tuer.
Mais qu'en faites-vous ?
Je les garde chez moi, ils vivent avec moi, mais simplement, j'essaye de me conduire comme une bonne mère qui accouche d'un très grand nombre d'enfants. Et j'ai l'impression que je suis capable de voir ceux de mes enfants qui sont destinés à la lumière et ceux qui, plus fragiles, sont très heureux dans l'obscurité de mes armoires.
Alors là, c'est l'auteur qui parle, c'est la lectrice qui vous pose cette question, il n'y voyait aucune perfidie, mais et si votre meilleur roman se trouvait parmi ceux que vous avez sacrifiés ?
Mais je le répète, je ne pense pas du tout les avoir sacrifiés.
Mais puisqu'ils ne seront jamais lus.
Mais c'est pas grave. Et c'est peut-être parce que je suis profondément mystique, mais je pense qu'on existe autant quand on est dans le noir, que quand on est dans la lumière. Donc, si ça se trouve, peut-être que le meilleur de mes livres n'a pas été publié, mais peut-être que ça lui réussit très bien de ne pas avoir été publié. Il ne faut surtout pas croire que le but de l'écriture, c'est la publication. Le but de l'écriture, personne ne le connaît. On écrit pour élucider un mystère intime.
Vous ne savez pas, en votre fort intérieur, pour quelles raisons vous écrivez, Amélie Nothomb ?
Mais bien sûr que non. Je suis en train d'écrire mon 103e manuscrit. Donc, j'ai 54 ans, je suis en train d'écrire mon 103e manuscrit. Comment est-ce que je pourrais prétendre savoir pourquoi j'ai écrit tout ça et pourquoi je vais continuer à écrire tout ça ? Forcément, je suis débordée par ce que j'écris. Forcément, ça me dépasse.
Jamais vous n'avez eu la tentation d'exhumer l'un de ces romans donc, je répète, un peu lourdement, condamné, puisque jamais lu, et par exemple, le reprendre, le remanier. Jamais.
Oh non, jamais. Là encore, la bonne métaphore, c'est celle de la mère. Je suis une maman, j'ai mis au monde un très grand nombre d'enfants. Si, admettons que l'un d'entre eux me paraisse moins réussi, ça peut arriver, mais je l'aime comme il est. Et puis, comment faire pour retomber enceinte du même enfant ? Comment faire pour le remettre dans son ventre et re-accoucher ? Ça n'a absolument aucun sens.
Bon, de façon courtoise, vous dites que le talent dépend de l'intensité du désir. Ben, vous savez bien que non, honnêtement, non. On peut désirer farouchement, furieusement, mais ne pas posséder le don.
Écoutez, franchement, je pense qu'à la base, je n'avais aucun don. J'avais de l'enthousiasme, mais je n'avais pas de don particulier. J'ai dû inventer mon son quand j'ai commencé à écrire à l'âge de 17 ans. Oui, j'étais une raconteuse d'histoire, mais ce n'est pas ça qui me donnait une voix, ce n'est pas ça qui me donnait un son. Mon son, j'ai dû le travailler.
C'est extraordinaire parce que vous comparez avec la petite musique donc de la littérature. Vous parlez
oui.
de son,
oui,
en fait.
Oui, c'est ça. Mais c'est ça qui différencie un écrivain d'un simple raconteur d'histoire. C'est de trouver son son. C'est ça qui me hante, c'est de trouver le son.
Vous l'avez trouvé ?
Oui, mais encore faut-il le garder. Quand on écoute certains musiciens, on sait tout de suite, même si on n'a aucune culture, on dit « je connais ce son ».
Quand on lit un chapitre d'Amélie Nothomb, on sait qui l'a rédigé, qui l'a signé.
Oui, je pense que vous avez raison. Mais c'est très important de garder son son. Et j'y travaille continuellement. Ma terreur, ce serait de perdre ce son.
Amélie Nothomb, pourquoi avez-vous souhaité ne pas avoir d'enfant ?
Alors, je ne peux pas vous expliquer, je n'en ai jamais eu le désir. Je n'ai jamais sondé cette absence de désir. J'imagine que le fait d'avoir eu des parents à ce point extraordinaire m'a dissuadé de me mesurer à eux.
C'est terrible ce que vous dites.
Non, parce que...
Votre maman, sans doute ?
Non, je n'ai pas de frustration. C'est pas comme si j'avais
eu... Ah, je ne dis pas que vous avez une frustration.
Oui.
Mais... Ça veut dire qu'en fait, ils étaient si gigantesques dans leur statut de parent que vous vous interrogez sur ce que vous seriez en tant que mère ?
Je pense que j'aurais été une mère désastreuse.
Pourquoi ?
Parce que j'aurais été une mère poule, mais alors là, au dernier degré. J'aurais eu tellement peur pour mes enfants que je les aurais gravement surprotégés. Alors que mes parents étaient capables d'une extraordinaire désinvolture avec leurs trois enfants, grâce à laquelle, d'ailleurs, nous avons eu des enfances très heureuses et grâce à laquelle nous avons pu grandir et nous épanouir. Je ne souhaite à personne d'avoir des parents comme la mère que j'aurais pu devenir.
Mais là, c'est comme si la désinvolture, en fait, était une espèce d'étalon or dans l'éducation. Or, vous dites, moi j'aurais été une mère poule.
Oui.
Donner un trop-plein d'amour, c'est aussi prodigieux. À recevoir quand on est enfant ?
Alors, donner un trop-plein d'amour, je suis d'accord, ça c'est formidable. D'abord, mes parents m'ont donné beaucoup d'amour. Mais les surprotéger, je ne pense pas que ce soit un cadeau à offrir à ses enfants. Je pense finalement que j'aurais été une mère assez moderne. Les mères d'aujourd'hui ont tendance à surprotéger leurs enfants. Et j'aurais été une mère de ce genre.
Est-ce qu'on cesse d'être jeune quand on perd ses parents ?
Oh mon Dieu ! Je ne sais pas. J'ai perdu mon père, je n'ai pas perdu ma mère. Je ne peux pas vous expliquer, je me sens à la fois jeune et vieille. Je suis vieille par beaucoup de points, d'abord parce que par le corps, je vois bien que la machine commence à s'enrayer depuis...
Bon, alors je vous arrête tout de suite parce que Amélie Nothomb, au naturel, lorsque vous n'êtes pas vêtue de noir, chapeautée et avec du rouge à lèvres, Amélie Nothomb, elle a un air de juvénilité qui est absolument fascinant.
c'est gentil, mais...
Mais non, je vois ce que je vois.
Mais depuis une semaine, je porte des lunettes pour lire et écrire. Auparavant, je n'en avais pas besoin. Je vous assure que quand je porte mes lunettes, je me sens vieille.
Bon, vous dites, on va revenir à votre roman, vous dites que Premier Sens, ce nouveau roman qui met donc en scène votre père, a clarifié vos rapports avec lui.
Oui.
Mais il y a forcément des questions que vous regrettez de ne pas lui avoir posées. Votre père, en fait, est parti il y a à peu près un an et demi au début du confinement, c'est ça, d'une crise cardiaque.
D'une crise cardiaque suite à un long cancer. Et comment vous dire, c'est étrange, mais j'ai vraiment l'impression que ça a été parfait. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de questions que je n'avais jamais abordées avec mon père. Mais d'abord, j'ai découvert qu'après la mort, il n'était absolument pas trop tard.
Mais ça, c'est parce que vous êtes écrivain. Vous avez la possibilité de prolonger les êtres dans des récits, leur donner vie sur papier.
C'est plus fort que ça. Je n'ai pas, quand mon père est mort, je ne savais pas que j'allais écrire ce livre. Il a fallu que 6 mois se passent pour que j'y songe. Quand papa est mort, il a commencé à me parler dans ma tête. Pendant les 6 mois qui ont suivi sa mort, j'ai eu un dialogue avec lui qui était très très intense. Il me parlait tous les jours et je lui parlais tous les jours. Et on se disait des choses qu'on ne s'était jamais dites et j'avais aucun doute sur le fait que c'était lui qui me parlait. Donc c'était merveilleux, c'était très très bouleversant. Puis peu à peu, je me disais quand même, c'est bizarre, il me parle quand même beaucoup. c'est pas très bon signe, je crois, pour un mort de t'en parler à sa fille. Il y a quelque chose qui n'est pas fait. Il attend quelque chose. Par ailleurs, je continuais de beaucoup souffrir parce que même si ce dialogue était très beau, je souffrais intensément de ne pas avoir pu aller à la cérémonie funéraire de mon père à cause du confinement et tout ça. Bref, en octobre 2020, je me dis, bon, écoute, merde, tu es écrivain, c'est l'occasion d'en faire quelque chose. Ressuscite ton père. Tu crois à ce point en l'écriture que oui, tu peux le ressusciter. Fais-lui tes funérailles à toi. Mais pour ça, tu dois d'abord lui rendre la vie. Et pour le ressusciter, je lui ai donné ma vie à moi. C'est-à-dire que je lui ai donné mon « je », l'espace d'un roman. Et il y avait énormément de questions que je ne lui avais pas posées de mon vivant, mais tout ce qui me manquait est venu en cours d'écriture. Quand je ne savais pas, je me concentrais, je me laissais posséder par l'esprit de mon père.
Et c'est comme s'il tenait votre main.
Et c'était comme s'il possédait ma main. Maintenant, j'ai envie de dire, je sais tout ce que je voulais savoir. Je ne sais évidemment pas tout sur mon père, mais je n'ai pas besoin de tout savoir sur mon père. Je sais ce que je voulais savoir.
Amélie Nothomb, il n'est pas courant pour un écrivain d'arrêter un roman juste avant, dans les faits, sa propre conception physique. Votre père, je parle de Premier Sang qui vient de paraître chez Albin Michel, votre père est pris donc en otage au Congo par le président Gbenye, c'est pas évident à prononcer. Et les deux dernières répliques du livre sont « Voulez-vous un troisième enfant, monsieur le consul ?» Et votre père répond donc « Ça dépendra de vous, monsieur le président. » Le troisième enfant, on a compris que ce sera vous, Amélie Nothomb. Donc vous avez vraiment failli de ne jamais voir le jour.
Mais oui, d'autant plus que je pense que mes parents n'avaient pas du tout le désir d'avoir un troisième enfant. Et il a fallu cette expérience d'otage, il a fallu que mon père frôle la mort à ce point pendant 4 mois pour qu'il se sente investi d'un tel pouvoir de vie et que ce pouvoir de vie, cette vitalité, ce surcroît de vitalité de qui a frôlé la mort, lui aspire le besoin de mettre au monde un troisième enfant. Donc vous imaginez, pour moi, c'est un cadeau magnifique. Bon, à la fois, c'est spécial, hein, parce que la mort est tout près. Mon père venait de réchapper à la mort.
Voilà, le peloton d'exécution.
C'est ça.
Ça, c'est la première scène du livre.
Ça.
Et les deux répliques que je viens de dire, c'est la fin, justement,
ça.
Du livre.
Oui.
Et vous allez...
Et je suis née de ça.
Vous êtes née, en fait, d'une rage de survivre.
D'une rage de survivre.
Ça vous ressemble bien.
C'est ça. Donc, c'est pour ça aussi que la mort est tellement présente en moi. Je suis née de ça et de la rage de survivre.
Bon, Amélie Nothomb, dans les temps anciens, le peuple maya traçait au sol ce qu'on appelle des géoglyphes, c'est-à-dire des dessins absolument gigantesques dont la compréhension des formes n'était visible que du ciel. Sauf que, à l'époque des Mayas, l'avion n'existait pas. Or, pourtant, ils avaient ce sens de la cohérence des dessins géants. Vous, à votre façon, c'est-à-dire avec vos 30 romans dont les sujets sont si différents les uns des autres, j'ai le sentiment que vous faites une sorte de géoglyphe, une œuvre cohérente qui sera analysée plus tard. Voilà, c'est comme si vos livres étaient les lettres d'un rébus. Mais il y a un sens global.
Mais il y a un sens global.
Bon, le sens global, au début de cette conversation, vous nous avez dit que vous-même, vous ne l'aviez pas vraiment en tête.
Je ne l'ai pas encore en tête.
Il vous échappe.
Je vous en approchez.
Je
m'en approche. Je ne suis pas au bout du big picture parce que je ne vais pas encore mourir. Je vais encore beaucoup écrire. Mais je sens que, oui, vraiment, je suis en train de dessiner ce géoglyphe et qu'un jour, je serai moi-même étonnée de voir la forme que j'aurai dessinée.
C'est le sens de toute œuvre.
Je l'espère.
Merci infiniment, Amélie Nothomb. Je rappelle que votre nouveau et 30e roman vient de paraître chez Albin Michel. Premier sang. Merci, à très vite.
Merci, Isabelle.